J'ai une version qui est un peu plus fraîche et qui donne... Non, c'est bon. Qui donne un vocabulaire qui est un peu plus compréhensible pour nous. Je vous propose, sans repasser derrière le frère, mais de relire chacun de ces passages au fur et à mesure du message. Je vais le lire selon la version Louis II. Et je vous propose de le commenter ensemble en suivant le cheminement de ce qu'est le jugement. Nous sommes conscients que nous ne devons pas juger, qu'on est là pour faire grâce, pour absoudre justement, puisqu'on est nous-mêmes bénéficiaires de cette grâce. Mais on ne va aller pas, parce que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Jacques, effectivement, au chapitre 4, au verset 10, nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors ça, pour plaire à Dieu, c'est la première des conditions. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Elle dit aussi que celui qui s'abaisse sera élevé. Le contraire aussi, ça marche toujours. Hein. Et celui qui s'abaisse de lui-même sera élevé. Parfois, on attend que ce soit le Seigneur qui nous abaisse. Et Dieu attend de nous, au contraire, une sanctification personnelle. Il y a la sanctification de l'esprit, c'est l'esprit qui nous convainc de certaines choses, de nous rabaisser quand on est monté trop haut, et qui nous élève au temps convenable. Mais il y a aussi une démarche personnelle. Et celle-ci, c'est de nous abaisser nous-mêmes, de notre propre initiative, pour faire plaisir au Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur, et la conséquence, c'est qu'il vous élèvera. Mais selon ses conditions, on sera élevé dans le ciel. Sur la terre, certainement pas. Mais c'est encore pas le plus grave, ça. L'essentiel, c'est que devant Dieu, on soit vu avec une certaine valeur. La valeur qu'on a acquise grâce à la croix, il ne faudrait pas la perdre. Il ne faudrait pas l'entacher. Et le problème de cet entachement, c'est souvent ce problème de jugement. La Bible dit que, en certains termes, la parole est un miroir quand on la lit. On se voit face à nous-mêmes et on se voit sur ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Ce que nous devrions être et ce que nous n'avons pas été, c'est un miroir. Mais c'est un miroir personnel. C'est pas un miroir qui est tourné comme ça. C'est un miroir qui est face à nous. C'est d'ailleurs l'utilité d'un miroir, c'est de se voir nous-mêmes. Si on prend un miroir et que je vais voir Kiet et que je lui dis « Kiet, t'as vu, tu t'es vu ?» Non, il n'a pas besoin de moi pour le faire. Le matin, il prend le temps. Comme tout le monde, je pense, de se voir selon ce que nous sommes en réalité. Et il n'a pas besoin de moi pour le lui dire. Ni moi de lui d'ailleurs. Mais il précise au verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. » Il s'adresse aux frères. On aurait pu comprendre qu'il s'adresse à des païens. Mais là, il précise « frère ». Fallait-il qu'il précise ces choses à des gens qui ont bénéficié de la grâce ? Oui. Oui, et ça peut arriver. On peut tomber dans un jugement parce que la Bible nous avertit de la puissance de la langue. On ne va pas y venir sur le texte, vous le connaissez certainement. Mais c'est à travers la langue que ce jugement se fait. Ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alors, on n'est plus sous la loi, évidemment, mais l'accomplissement de la loi se trouve dans la grâce. Et Jésus précise plusieurs fois dans ses interventions, la loi n'est pas contre ces choses. même si nous sommes sous la grâce. Ça veut dire que les repères moraux, éthiques, logiques de la loi, nous devons les observer. Celui qui juge son frère par le mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Dieu veut que nous en soyons des observateurs, rigoureusement, mais toujours avec ce miroir, d'abord. Un seul est législateur et juge. Le législateur, c'est celui qui fait les lois. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers Dieu et de lui dire « Seigneur, pourquoi tu as créé cette loi ? Elle me dérange. » Qu'est-ce qui nous empêche de dire ça ? C'est une acceptation totale de ce qu'il veut lui parce que nous l'aimons. Donc on ne va pas remettre en question ce que l'amour parfait pour nous nous a dit. Ça serait un comble. Et c'est vrai que quand on en parle comme ça, on se dit oui, ça serait grave de faire ça. Et pourtant, ça peut arriver que quotidiennement même, on puisse le faire. Et ça peut nous échapper. Il peut y avoir une pensée. Parfois même, ça n'a pas le temps d'arriver à la langue, mais la pensée est déjà là, contre un frère, contre une sœur. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Lui, il a ce pouvoir. Il peut sauver et perdre. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous avons juste le pouvoir d'accueillir à bras ouverts la grâce de Dieu afin d'être sauvés et de ne pas se perdre. Mais celui qui a ordonné ces choses a le pouvoir de sauver et de perdre ceux qui l'observent et ceux qui ne l'observent pas. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Le prochain, ça peut être chacun de nous. On connaît la parabole du bon samaritain. Et le docteur de la loi demandait à Jésus, « Seigneur, mais qui est mon prochain ?» Comme s'il ne le savait pas. Son prochain était justement dans l'image que la parabole du Seigneur a pris. C'était la personne qui était en difficulté. Et souvent, on est amené à juger des personnes, non pas parce qu'elles sont bien, mais parce qu'elles sont en difficulté. Le but du Seigneur, quand la personne est en difficulté, lui qui a le pouvoir de la juger, de la sauver ou de la perdre, c'est ce qu'on vient de lire, lui se rabaisse en dessous de nos cœurs parfois pour pouvoir recueillir cette personne. Et il est l'image du bon samaritain. Il est l'image de ce que nous devons être chacun de nous. Recueillir celui qui est tombé. Recueillir celui qui marche mal à nos yeux. La parole nous dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle ? Parfois nous voyons, et nous le verrons après, que quelqu'un est aveugle, mais nous ne voyons pas, nous, notre propre chemin. On ne sait plus où il faut marcher, parce que l'amour est parti du cœur. Il n'a pas été renouvelé par le Saint-Esprit, par la communion avec Dieu, par l'observation de sa parole. Alors ça manque. On ne voit plus nous-mêmes notre propre chemin. Par contre, on est capable de voir que le chemin des autres est tortueux. Alors ce sont des super capacités contre lesquelles Dieu nous met en garde. On va reprendre le passage de Romains, qui est très intéressant, parce que c'est un passage qui nous unit dans notre condition. Romains, chapitre 14, verset 4. Le Seigneur nous dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. On a vu qu'il avait ce pouvoir, hein, de l'affermir dans le but de le sauver. Mais si nous-mêmes, avant que le Seigneur puisse intervenir, on l'a déjà tué avec notre langue, le travail va être rendu plus difficile. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il demande: qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Ça veut dire, autrui, il s'agit du Seigneur, hein, c'est un serviteur du Seigneur, puisqu'il le précise après. Mais qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Ça veut dire que si tu te permets de juger celui qui est un serviteur du Seigneur authentique, qui tombe, mais que tu te permets de le juger, ça veut dire que la coupe du Seigneur, le commandement auquel lui essayait d'obéir, toi tu n'y es pas sous ce commandement. C'est pour ça qu'il dit, lui, c'est un serviteur d'autrui. C'est pas ton maître, c'est son maître à lui. Ça veut dire, tu es parti hors jeu. Vous savez, dans les matchs de foot, il y a des gens qui s'isolent un petit peu, ils sont hors jeu. Et à cause d'eux, tout le match est stoppé. À cause d'une personne. C'est le serviteur du Seigneur. Et en le jugeant, nous nous mettons non plus serviteurs du Seigneur, mais ennemis du Seigneur. Parce que la Bible dit, et le Seigneur nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui-là, le Seigneur l'appelle ami. Il ne l'appelle même plus serviteur. Il y a une promotion. On passe au stade au-dessus. Il est un ami de Dieu. S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître, celui qui a ce pouvoir sur lui. Mais il se tiendra debout, et ça c'est un espoir. Et c'est ce que l'amour doit rechercher. C'est que celui qui est tombé se relève. Ça doit être l'objectif. Il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir, pas nous. Nous, on a juste le pouvoir de ne pas lui faire du mal. Le bien, c'est Jésus qui s'en occupe. Mais nous, gardons-nous de lui faire du mal. Il y a parfois des personnes qui savent des choses sur d'autres personnes et qui, parce qu'ils n'ont pas assez de temps dans la prière, se payent le luxe de divulguer des choses ou de parler comme si de rien n'était. Ces choses-là, la Bible dit que l'insensé se mesure au nombre de ses paroles. Il y a des gens qui parlent pas beaucoup et il y a des gens qui parlent trop. Le Seigneur nous dit que les paroles de notre bouche nous enchaînent ou nous libèrent. Parce qu'il parle de confesser de sa bouche nos péchés. Donc la parole a un pouvoir. Autant pour le bien que pour le mal d'ailleurs. Elle peut nous libérer, mais elle peut aussi enchaîner notre prochain. Par manque d'activité, par oisiveté. On ne parle pas de l'oisiveté de l'activité terrestre. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un se balade dans la rue qu'il va automatiquement parler mal, parce que son emploi du temps n'est pas occupé. Non, il s'agit de son âme et de son esprit avec Dieu. Si nous sommes occupés à rechercher les choses d'en haut, nos yeux vont être plus là-haut qu'ici. C'est ce qui va nous préserver de regarder trop terre à terre et de tomber nous-mêmes, de nous mettre sous le jugement du maître de ce serviteur dont nous avons parlé, parce que le maître a le pouvoir de perdre aussi, surtout ceux qui ne lui appartiennent pas ou qui ne lui appartiennent plus à cause de ses comportements. Ce sont des paroles peut-être assez dures, mais le Seigneur ne donne pas de demi-mesure dans la Bible. Il dit, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un est spirituel, le lendemain, il peut être charnel. C'est une remise en question de chaque jour. Le surlendemain, s'il demande pardon à Dieu et qu'il renouvelle sa communion avec lui, il peut redevenir spirituel. Donc on peut passer comme ça, au fil de notre vie, de temps en temps, de ami à presque ennemi de Dieu. La grâce est toujours disponible, mais le chemin n'est plus droit. Il est tangible, il est tortueux. Il devient parfois bon, parfois mauvais. Et la caractéristique de notre Seigneur, c'est la stabilité. La Bible dit que Jésus est assis sur un trône éternel. C'est-à-dire, il peut y avoir plein de circonstances, il peut y avoir du vent, des tempêtes. Rien n'ébranlera la solidité de Dieu, la solidité de sa parole. Sa parole est aussi stable que lui. Ça veut dire que s'il dit « je te sauve », ce n'est pas pour te perdre le lendemain. Il y a une relation de confiance qui s'établit avec lui. Mais ceux qui lui ressemblent doivent être aussi stables que lui. Si nous vivons selon son esprit de stabilité, cette stabilité dans la bonté et dans l'amour doit se retrouver chez nous. Et c'est à cela qu'on voit à quel maître nous appartenons. La Bible dit aussi, en d'autres mots, que le diable vit dans la confusion, c'est-à-dire qu'il fait une œuvre qui le trompe lui-même. Parfois, sa méchanceté sert à l'œuvre de Dieu et il ne le sait même pas. Il n'a plus la lucidité. Il n'a plus la lumière qui est la parole de Dieu pour éclairer son sentier. Son sentier à lui est déjà tout tracé. Mais il est tortueux. Et ceux qui lui ressemblent peuvent être instables comme ça, dans le comportement, dans le fruit. Un passage qu'on connaît bien nous parle qu'il faut que notre fruit demeure. Ça veut dire qu'il reste, qu'il perdure avec le temps. Qu'il faut qu'il y ait toujours une recherche de cette stabilité, cette permanence du fruit de l'esprit en nous. Ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, ça veut dire la grâce, et c'est exactement l'opposé du jugement. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous devons condamner le péché, oui, mais pas le pécheur. Le pécheur, lui, il faut qu'il se relève. Si le péché tombe, c'est pas grave, c'est sa destinée. Mais le pécheur, lui, il peut appartenir à Dieu. Le pécheur, lui, il faut le récupérer. Il faut, comme son nom l'indique, le repêcher, justement. Ça, c'est notre but. Ça, c'est notre travail. On part dans Luc, au chapitre 6. Verset 37. C'est un passage qu'on connaît bien. Hein. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ça veut dire, il y a une conséquence logique, c'est-à-dire, c'est la grâce, oui, mais ce que tu fais de bien ou de mal va te retomber quand même sur la tête un jour ou l'autre. Dieu ne nous épargne pas, bien souvent, les conséquences terrestres de nos actes. Si demain, nous faisons du mal à quelqu'un, physiquement, le Seigneur nous pardonne cette faute si on lui demande pardon. Mais les conséquences de la justice terrestre demeurent. On peut aller en prison. Il y a donc des conséquences que Dieu ne nous épargne pas. Et c'est pour ça qu'il dit, en prévision de cela, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Quand ? Plus tard. Là-haut. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, ça veut dire faire grâce, et vous serez absous. Donnez, au lieu de prendre, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde. On parle du Saint-Esprit là. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La définition de l'amour pour ce monde, ce n'est pas donner, c'est prendre. Quand on parle mal de l'autre, on prend à l'autre. On lui prend un petit peu de ce qu'il est. On lui prend un petit peu de sa dignité. Un petit peu de son honneur. Et on le salit. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est-à-dire, je me permets de parler. D'accord ? Toi aussi, quelqu'un parlera sur toi. Mais ce quelqu'un qui parlera sur toi, lui, il est parfait. On ne pourra pas lui reprocher quelque chose à lui. Lui pourra nous reprocher des choses, mais pas nous. Ça sera le Tout-Puissant qui va nous faire montrer la paille et la poutre dont on va parler tout à l'heure. Au verset 41, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire que cette poutre est tellement large qu'on ne voit plus. L'autre, avec sa paille, qu'on lui reproche, il a la paille devant, mais le chemin, il le voit encore, lui, parce que la paille est petite. Mais dans l'œil de celui qui juge, il y a une poutre. C'est comme si on se mettait en face du mur, là. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est fini. Le chemin est perdu. C'est trop large. Le péché, la bêtise, est devenu trop large. Alors le chemin, on ne sait plus où il est. Et le chemin que nous suivons, c'est le chemin du ciel. Si nous perdons ce chemin, on comprend que la suite est dangereuse. Ôte premièrement la poutre, c'est-à-dire demande à Dieu, « Seigneur, aide-moi à enlever la poutre et à me taire un petit peu. » Et quand j'ouvre la bouche, que ce soit pour le bien de mon frère, non pas pour son mal, que ce soit pour lui faire du bien, pour le relever. La Bible dit « Une parole douce fait fléchir un prince. » Le plus tyrannique de tous les dictateurs peut fléchir avec une parole de Dieu qui est assaisonnée de sel, où il y a de l'huile, où il y a de l'amour. Une seule parole suffit. Le dernier petit passage que je vous propose de lire, c'est dans Matthieu 7, au verset 1. Et on va s'arrêter avec ça. Au verset 2, même, on va prendre... Matthieu est beaucoup plus simple à lire et il va un peu plus droit au but que Luc. Il nous dit, il répète ce que Luc a dit, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Mais ensuite il dit, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça, c'est le dernier aspect. Quand nous avons parlé d'humilité au tout début, l'humilité nous fait voir l'autre comme étant plus grand que nous et nous-mêmes comme étant tout petits. L'humilité nous fait voir Dieu aussi grand qu'il est dans la réalité. Et plus on le voit grand, plus on se voit petit. Et c'est ce qu'il nous dit. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Si tu mesures ton frère comme étant grand, Dieu te considérera comme grand à ses yeux. C'est pour ça qu'il dit que dans un corps, dans Corinthiens, il dit que les membres du corps, parmi nous, qui sont jugés les moins honorables, reçoivent un double honneur pour équilibrer un petit peu la chose. Et ceux qui sont honorables, on peut parler peut-être de ceux qui ont des dons ou des ministères, etc., eux n'en ont pas besoin d'honneur. Donc le Seigneur, il remet à niveau chacun. Celui qui se voit tout petit, il l'élève. Et celui qui se voit un peu haut, hop, il le rabaisse pour que tout le monde soit à la même hauteur. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le seul qui doit être placé en hauteur, c'est lui. Le seul qui juge, c'est lui. Le seul qui sauve ou qui perd, c'est lui. Nous nous sommes appelés juste à lui obéir et à nous aider les uns les autres pour lui obéir toujours mieux. Amen. On prie le Seigneur ensemble, je vous propose de vous lever.